Ça y est, frères et sœurs, nous avons aperçu David qui était jeune, le plus jeune des fils de Jessé, et qui avait une belle tournure, belle apparence, et qui avait de beaux yeux, qui était roux, et dont le Seigneur a aimé le cœur droit particulièrement. Et quand il reçoit l'onction, le texte dit que l'esprit, avec un grand E, fondit sur lui. Mais il y a différentes sortes d'esprits, et nous allons voir que au début de sa mission, auprès de Saül, son prédécesseur, et qui n'appréciera pas trop d'avoir un successeur, bien évidemment, et d'autres esprits seront en présence. Saül, de fait, n'avait pas simplement été déserté par l'Esprit de Dieu en raison de son infidélité et de sa désobéissance. Un mauvais esprit occupait maintenant sa place. Je cite le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 14. « L'Esprit du Seigneur s'était retiré de Saül et un mauvais esprit, venant du Seigneur, lui causait des terreurs. » Qu'est-ce que ça veut dire ? On peut comprendre que Dieu retire sa présence de ceux qui lui désobéissent, mais il est plus difficile d'admettre que Dieu envoie un esprit mauvais pour le remplacer. Certes, l'Évangile évoque une telle occupation des âmes par des esprits mauvais, mais ces esprits ne sont pas présentés comme venant de Dieu. Je cite Saint Luc au chapitre 11e, « Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il erre par des lieux arides en quête de repos. N'en trouvant pas, il dit « Je vais retourner dans ma demeure d'où je suis sorti. » Étant venu, il la trouve balayée, bien en ordre. Alors il s'en va prendre 7 autres esprits, plus mauvais que lui. Ils reviennent et ils habitent, et l'état final de cet homme devient pire que le premier. N'y a-t-il pas blasphème à faire de Dieu l'origine des esprits mauvais ? Il est assurément le créateur des esprits, mais non de leur méchanceté. Qu'il en soit bien ainsi, c'est ce que montre avec force Jésus quand les pharisiens attribuent ses miracles à Béelzéboul, le prince des démons. Attribuer aux démons les bonnes œuvres constitue le péché irrémissible, puisque c'est un blasphème contre l'esprit, comme dit Jésus au chapitre 12e de Matthieu. On se bouche les yeux et le cœur pour affirmer que le bien vient du mal, ou que le bien est le mal, ou que le mal est bien. N'en va-t-il pas de même quand on prétend que le mal vient du bien et que l'esprit mauvais vient de Dieu qui seul est bon ? Loin de nous donc un tel blasphème. De toute évidence, quand l'Écriture parle d'un esprit mauvais venant du Seigneur, à une haute époque de rédaction, elle laisse l'auteur humain inspiré s'exprimer selon les catégories encore frustes d'une théologie primitive et évoquée quand nous parlions naguère dans nos conversations de la guerre sainte. Il a fallu du temps au langage pour dire avec plus de finesse le jeu de la liberté divine et de la liberté humaine. Que veut enseigner l'Écriture dans le cas qui nous occupe ? Sans doute que Dieu sait et veut tout ce qui arrive en notre monde. Si aucun moineau ne meurt sans que le Père en soit conscient, et sans qu'il y consente, dit Jésus dans Saint Matthieu, si aucun de nos cheveux ne tombe sans sa permission, peut-il laisser errer les esprits mauvais sans les contrôler ? Les deux premiers chapitres du livre de Job montrent que Dieu n'est pas l'origine du mal, mais qu'il fait entrer en ses desseins les débordements eux-mêmes de ce que saint Paul appelle le mystère de l'iniquité ou de l'impiété. Il n'est pas sûr, d'ailleurs, que le mauvais esprit qui causait des terreurs à Saül doive être interprété comme un être spirituel mauvais, tel un démon ou un esprit impur, selon l'expression de l'Évangile, ni comme une qualification morale dont le roi déchu serait responsable. Il semble que la formule biblique sur laquelle nous nous arrêtons un instant, recouvre tout simplement ce que nous appelons aujourd'hui une sorte de dépression nerveuse. Assurément, ce peut être une conséquence de la désobéissance de Saül et de son rejet par Dieu, et de la sorte elle a une valeur de peine. Mais en elle-même, elle n'est pas une faute nouvelle. Un dépressif ou un maniaque peuvent éventuellement avoir été à l'origine de leur état par une suite de fautes ou d'erreurs ou de lâchetés. Mais il faut se garder de les culpabiliser sur leur maladie elle-même, à la manière des amis de Job qui, au lieu de garder le silence respectueux observé au départ, multiplient ensuite les reproches. Un psalmiste se plaint d'une telle attitude, il s'acharne sur celui que tu frappes, il rajoute aux blessures de ta victime. Il vaut mieux essayer de soulager le malade par tous les moyens possibles, ou tout au moins par le silence. En cas d'abattement, de détresse ou de dégoût, Saint Thomas d'Aquin, dont nous avons la tête et les os ici à Toulouse dans l'église des Jacobins, saint Thomas conseille deux remèdes, le sommeil et le bain. La douche n'existait pas de ces jours-là. L'un et l'autre opèrent une certaine détente corporelle qui peut chasser la mauvaise humeur ou les mauvaises humeurs. Ces dernières expressions ne sont-elles pas les traductions plausibles du mauvais esprit biblique? Et saint Thomas ne dit rien d'un troisième remède qu'évoque le dicton « La musique adoucit les mœurs ». Au temps de David, on en connaissait déjà l'application, c'est ce que nous verrons la prochaine fois.